Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Et bonjour à tous les auditeurs des RVM qui peut-être découvrent l'économie pour tous, notre émission que nous reprenons cette année pour sa 9e saison. Et Renaud, laisse-moi te dire dans un premier temps que je suis absolument ravi de reprendre du service avec toi.
Eh bien écoutez, il en est exactement de même pour moi, à la fois de reprendre du service avec toi, mais aussi de retrouver les auditeurs. Puisque pour ceux qui ne nous connaissent pas, effectivement, nous avons déjà fait 8 saisons de l'économie pour tous, 7 dans une autre vie, ça devait être il y a une bonne quinzaine d'années de cela, c'est ça,
cette année. Oui, je crois qu'on avait commencé en 2004.
Ouais, voilà, donc ça doit être faire ça, 2004, 2011 ou 2012, et ensuite nous avions refait une série d'émissions spéciales en 2020 au moment du confinement. Mmh. Et l'actualité est un peu brûlante de ces derniers mois, nous a poussé à reprendre le chemin des studios pour parler un peu d'économie de nouveau ensemble.
Absolument, et c'est toujours avec plaisir, sauf que évidemment c'est dans un contexte, comme tu l'as dit, qui est un petit peu morose, on va dire, en ce moment, hein, sur le plan économique. Alors, je me souviens bien, Renaud, lors de la saison 8, on avait terminé sur les dernières émissions avec l'espoir d'un monde meilleur, et on parlait peut-être du monde de demain. C'était en tout cas l'expression qui était un petit peu à la mode à l'époque du confinement, puisqu'on espérait tous que ce confinement avec cette pandémie allait remettre en question nos modes de vie et nous permettre de changer l'avenir. Est-ce que nous vivons aujourd'hui dans un monde très différent de celui de cette époque-là?
Je suppose, Eric, que tu connais la réponse, puisque elle est un peu induite par ta question. La réponse, c'est à la fois oui et non, plus non que oui, évidemment. Si on doit s'arrêter sur la dernière élection présidentielle, par exemple, on s'apercevra que les thèmes de campagne étaient quand même très proches des thèmes du monde d'avant, si tant est qu'il y ait un monde d'avant et un monde d'après, mmh. Puisqu'on a parlé pouvoir d'achat, on a parlé immigration, on a parlé remise en question ou au contraire soutien au modèle social existant, mais on n'a pas beaucoup parlé d'écologie, on n'a pas beaucoup parlé de mise en avant de nouvelles formes alternatives de rapport au travail et de rapport plus général à l'économique et à l'activité matérielle.
Mmh. On a même assez peu parlé cependant, de redistribution des richesses.
Oui, voilà. Donc on est resté dans un monde qui repose sur l'idée que croître est toujours une bonne chose et que plus on produit, mieux c'est, quelle que soit la manière dont ensuite on redistribue ses richesses. Et il se trouve que quand même, je trouve que ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a chez les jeunes, surtout chez les jeunes, plus que chez les gens de notre génération, Eric, parce que nous commençons à arriver à un âge relativement canonique, mais il me semble qu'il y a un début de prise de conscience de quelque chose. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a très peu de temps, il y a un sondage qui est sorti et qui expliquait que, par exemple, aujourd'hui, chez les jeunes, il n'y en a que même pas 1 sur 4 qui estime que le travail est la valeur fondamentale qui doit être au cœur de son existence, qui donne un sens à son existence, qui définit son identité. Alors qu'il y a encore 20 ans de cela, on était plutôt entre la moitié et les 3/4 de la population qui pensait cela.
Oui, alors absolument. Je crois d'ailleurs que c'est une tendance lourde parmi la population. Alors, si ce n'est lourde, au moins une tendance grandissante, que de considérer que le travail n'est plus central, il n'est plus au cœur de nos vies comme il a pu l'être pendant de très, très nombreuses décennies, voire siècles. Et aujourd'hui, il y a une remise en question de cette valeur-là, effectivement, et ça s'explique par plein de choses. Mais ça reste quand même assez omniprésent. Hein. Le travail reste toujours très, très présent dans nos vies, malgré tout.
Oui, c'est bien pour ça que j'ai commencé par te répondre non, il n'y a pas de monde d'après, nous sommes dans la continuité du monde d'avant. Cependant, il y a des petits éléments, des indices qui peuvent laisser penser que peut-être nous sommes à l'aube de quelque chose de nouveau. Alors évidemment aussi la question écologique. Alors la question écologique, pour des bonnes raisons et pour des moins bonnes raisons, puisque certains hommes politiques actuellement mettent en avant l'importance de la sobriété, pas fondamentalement parce qu'ils ont enfin pris conscience de l'urgence écologique, mais avant tout pour faire face à des pénuries qui sont par avance avancées. Mais après tout, pourquoi pas, quel que soit le chemin qui nous amène à un peu plus de sobriété économique, finalement, on prend, parce que le chemin vers le monde d'après, c'est sans nous le doute celui-ci.
Alors, je reconnais bien là, Renaud, ton inaltérable optimisme. Et c'est vrai que tu as toujours une façon de présenter les choses qui, finalement, laisse espérer de meilleurs lendemains ou nous laisse voir les choses de façon plutôt positive.
Voilà, mais... Tu m'aurais posé la même question il y a 8 mois de cela, je t'aurais dit que je n'avais pas l'once d'un début de vision positive de l'avenir. Donc les choses me semblent évoluer. Alors évoluer une fois de plus, pas forcément pour des bonnes raisons, hein, puisque sans la guerre en Ukraine, ces thématiques sans doute aujourd'hui ne seraient pas aussi mises en avant. Mais prenons ce qu'il y a à apprendre et surtout, en fait, si je parle de la guerre en Ukraine, c'est aussi parce que cela va être le moyen d'introduire un peu notre série thématique de toute une série d'émissions que nous allons faire là en introduction de cette nouvelle saison, qui est la question de l'inflation, puisque les pénuries qui s'annoncent sont aussi la contrepartie de l'inflation. Cette inflation, elle est née de plusieurs phénomènes, dont la guerre en Ukraine. Et bien, ce que je te propose, c'est qu'on commence aujourd'hui par commencer à explorer cette première question, en fait, qui est celle de l'inflation.
Alors, pour être clair, hein, c'est plus ou moins RVM qui nous a encouragés à refaire cette série d'émissions présentes, qui fera l'objet d'une mini-saison, on va dire. On ne va peut-être pas faire une saison aussi longue que celle qu'on a pu faire dans le passé, mais avec pour but essentiel d'expliquer un petit peu pourquoi on en est là aujourd'hui avec cette histoire de l'inflation, dont on entend parler absolument partout. Elle est expliquée par la guerre en Ukraine, mais j'imagine qu'elle a aussi bien d'autres raisons que tu vas peut-être décortiquer pour nous. Qu'est-ce qu'il y aura au programme d'autre dans cette mini-série ?
Eh bien écoute, en parlant de l'inflation, en fait, on va parler de plein d'autres choses. On va parler de politique monétaire, on va parler de redistribution des revenus, on va parler de croissance économique, on va parler de pouvoir d'achat, on va parler d'emploi, on va parler d'écologie, on va parler de monde de demain. Donc ne t'inquiète pas, par cette porte d'entrée, on a tout un monde qui s'ouvre à nous.
Ouais, je te fais confiance là-dessus. Très bien, alors par quoi est-ce que tu voulais commencer ?
Eric, j'ai une petite question à te poser pour démarrer.
Oui.
Est-ce que tu as une idée du niveau de l'inflation actuellement en France ?
Oui, parce qu'on en a quand même entendu pas mal parler ces derniers temps. et même, je peux te dire que je me suis intéressé à la question parce que je suis allé en vacances en Angleterre, figure-toi, cet été. Et je me suis rendu compte qu'en Angleterre, le taux d'inflation était aux alentours de 10%. Et donc, j'ai voulu comparer un petit peu avec ce qu'on connaissait nous, et je crois savoir qu'on est aux alentours de 6,5%.
Ouais, c'est ça. Alors, un tout petit peu moins sur les 12 derniers mois, puisqu'on serait tombé à 5,8. Mais ah, si oui, on prend en référence le mois de juillet, effectivement, on était à 6,2% sur un an. Alors, est-ce que tu sais comment on calcule ce taux d'inflation ?
Ah, j'étais sûr que ce serait la question d'après, Renaud. Oui, alors, comment est-ce qu'on calcule l'inflation ? Eh bien, j'imagine qu'on prend... un certain nombre de prix à un instant T, et puis qu'on calcule la différence à un instant qui est plus loin dans l'avenir. Donc voilà, c'est la comparaison de deux périodes basées sur les prix, c'est ça ou pas ?
Oui, voilà. Mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Le principe de base, il est assez simple. Effectivement, on va prendre un panel de produits qui est censé être représentatif du niveau moyen de la consommation des Français. On va regarder comment ces prix évoluent dans le temps et on va comparer le niveau moyen des prix que l'on a aujourd'hui au niveau moyen des prix qu'il y avait, par exemple, au même mois, il y a un an, donc à 12 mois de cela. Et en comparant ces deux niveaux, on va en déduire l'évolution moyenne des prix sur une année. Alors, c'est ce qu'on appelle un calcul en glissement, sache-le, c'est comme ça que l'INSEE calcule le taux d'inflation chaque année. C'est un peu compliqué parce qu'on aurait pu le faire autrement. Il y a aussi un autre mode de calcul qu'on appelle le calcul de l'inflation en moyenne et qui, lui, consiste à prendre le niveau moyen des prix tous les mois pendant 12 mois, les additionner et ensuite diviser par 12, ce qui permet d'avoir le niveau moyen des prix sur l'ensemble de la période.
Oui, ce qui est certainement un calcul beaucoup plus juste parce que... J'imagine qu'il y a des. L'inflation, c'est comme tous les phénomènes de ce genre, il y a des pics et il y a des creux. Et ça peut être l'objet d'un certain nombre de fluctuations, non?
Exactement, et c'est bien pour cela en fait que c'est compliqué de réellement mesurer l'inflation en le faisant comme on le fait en glissement, parce que lorsque l'on nous dit que les prix ont augmenté de 6,2% par exemple sur une année, en fait c'est beaucoup plus compliqué que cela. Si je prends un exemple extrême qui est un peu caricatural, mais on pourrait très bien imaginer avoir 10 mois dans l'année d'affilée où les prix ont augmenté de 20% au total sur les 10 mois, et puis sur les 2 derniers mois, les prix ont baissé. Et au total, si on compare le 12e mois au premier mois, on va dire que les prix en comparant ces deux instantanés, ont augmenté de 6%. Mais la réalité du ressenti de la population et la réalité du vécu de la population sur une année, ça sera pas du tout 6,2%. Ça sera beaucoup plus haut.
D'accord. Et alors, est-ce que dans l'inflation, on calcule absolument tous les prix? Je prends un exemple. Si j'achète une maison aujourd'hui et que je compare le prix de ma maison à ce qu'il aurait été il y a un an, je vais pouvoir calculer un taux d'inflation. Mais finalement, si ça se trouve dans le secteur de l'immobilier, le taux d'inflation est totalement différent de ce que je perçois au quotidien dans mon supermarché en faisant mes courses.
Tout à fait. Alors, calculer l'inflation, c'est pas simple parce que ça implique plusieurs choses. La première chose que ça implique, d'abord, c'est de définir, de déterminer qu'est-ce qu'on va prendre en compte dans le calcul de l'inflation. Et je suppose que ce n'était pas par hasard si tu as pris l'exemple de ta maison, parce que justement, le prix de ta maison n'est pas intégré dans le calcul de l'inflation.
D'accord.
Pourquoi? Parce que dans le calcul de l'inflation, en fait, on ne compte que ce que l'on appelle l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire on ne compte que notre consommation. Or, c'est un peu technique, hein, mais c'est ainsi. Les économistes considèrent que lorsque l'on achète une maison, c'est un investissement. Et comme c'est un investissement, ce n'est pas pris en compte dans l'indice des prix à la consommation. Ce qui retire une partie de la pertinence du calcul de cet indice par rapport au ressenti de la population. Parce qu'effectivement, si on est obligé d'acheter un appartement 2 fois plus cher que ce que l'on aurait acheté 10 ans avant, notre pouvoir d'achat, il est réduit. Mais cette réduction du pouvoir d'achat, elle ne se lira pas dans les calculs officiels, puisque justement l'évolution du prix de la maison n'est pas prise en compte dans le calcul de l'inflation. Par exemple, les placements financiers, sache-le, l'évolution du prix des placements financiers, l'évolution du prix des actions, des titres financiers n'est pas intégrée non plus dans le calcul de l'inflation.
D'accord. Alors donc finalement, ce calcul de taux d'inflation, il sert à savoir, à connaître la cherté de la vie.
En fait, oui, mais uniquement dans la partie consommation de nos achats. Tout
D'accord.
ce qui me concerne, tout ce qui concerne des placements ou de l'achat immobilier n'est pas intégré. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même 2 autres complications qui se posent. La première, c'est que lorsque le prix du ticket de métro, par exemple, augmente de 10%, sans doute qu'un Toulousain est moins concerné qu'un Parisien. Et même en prenant en compte le Parisien, dans quelle mesure achète-t-il régulièrement des tickets de métro pour savoir si ça a un
Oui.
gros impact au total sur
Bien sûr.
le prix de son paquet moyen de consommation ou non. Donc pour ce faire, l'INSEE calcule chaque année notre panier de consommation moyen en prenant en compte la consommation telle qu'elle a été observée l'année précédente. Donc on regarde ce que consomment les Français. Je ne sais pas, par exemple, actuellement, l'alimentation représente à peu près 12% du budget des ménages. Voilà, donc on fait ça et on va pondérer l'augmentation du prix de chaque bien par son poids dans ce panier de consommation moyen des ménages.
D'accord, très bien.
Voilà. Alors, ça pose un tout petit souci, c'est que par exemple, il est sans doute qu'un smicard qui habite Paris n'a pas exactement le même panier de consommation qu'un notaire qui habite Nantes. Donc, il faut savoir, si jamais cela intéresse nos auditeurs, qu'ils peuvent se rendre sur le site de l'INSEE et il y a ce que l'on appelle un calculateur d'inflation personnalisé. Donc, tu peux aller dessus, tu peux rentrer dessus quels sont, selon toi, les différents types de dépenses que tu réalises chaque mois en alimentation, en loisirs, en transport, en vêtements, etc. Et l'INSEE, le calculateur de l'INSEE, va te donner ton taux d'inflation personnalisé, parce que sans doute qu'il n'est pas le même que le mien, parce que nous n'avons peut-être pas les mêmes priorités de consommation. Et
D'accord.
donc, quand te dit que l'inflation est de 6,2%, c'est une inflation moyenne pour l'ensemble des Français, mais en fait, la plupart des Français, eux, ne subissent pas cette inflation-là.
Et est-ce qu'on
Et
constate
juste
des
pour
taux
finir
très
là-dessus,
différents entre les différents Français?
Non, il y a pas des écarts énormissimes. Mais malgré tout, tu peux avoir des écarts de quelques points. Et je sais pas là, quand par exemple on voit que parfois les négociations pour les hausses de salaire pour essayer de prendre en compte l'inflation vont achoper sur 0,5% ou sur 1%. Mmh. Eh bien, oui, ça peut au total avoir faire une sacrée différence si ton taux d'inflation que tu subis toi est 2 points supérieur au taux officiel.
Mmh. Ouais. Et alors, dis-moi si je me trompe, instinctivement, on aurait tendance à penser que les revenus les plus faibles sont plus impactés par le taux d'inflation?
Actuellement, oui. Oui. Parce qu'effectivement, c'est les produits alimentaires qui voient leur prix le plus augmenter. Et la part des produits alimentaires dans la consommation des faibles revenus est relativement parlant plus importante que cette part dans les hauts revenus.
D'accord.
Donc oui, ce sont actuellement plutôt les ouvriers, les employés, les chômeurs, les inactifs qui subissent l'inflation la plus grande. Sache d'ailleurs que lorsque l'on calcule la revalorisation du RSA, du SMIC, des minima sociaux, en fait, on ne prend pas en compte l'indice moyen de l'inflation tel qu'il est rendu public dans les médias, mais on prend en compte justement un indice personnalisé qui correspond à la consommation moyenne, des ouvriers et des employés.
D'accord.
Mais j'ai pas terminé, Eric. Il y a toujours d'autres problèmes méthodologiques qui se posent quand on veut calculer l'inflation. Donc, je me tourne vers toi qui es le maître des horloges de toutes nos émissions, Eric. Est-ce que tu penses que j'ai le temps de continuer là ou est-ce qu'il faut qu'on remporte ça à l'émission de la semaine prochaine?
Je vais t'accorder encore 2 minutes.
Alors, si tu m'accordes 2 minutes, j'ai au moins pouvoir finir sur ce point-là. Mais on aura quand même d'autres questions méthodologiques à voir la semaine prochaine qui vont être particulièrement importantes et intéressantes. L'autre problème qui se pose, donc je t'ai dit que pour calculer l'inflation, il faut déjà savoir ce que consomment les Français. Mmh. Et ensuite, il faut être capable de connaître le prix. Et c'est là que se pose un second problème, c'est que les prix sont pas identiques partout. Par exemple, quand on veut connaître le prix de la baguette de pain, elle est sans doute pas la même dans un Lidl en province que à la gare Montparnasse quand tu descends du train et que tu vas acheter ta baguette chez Paul, par exemple. Donc là aussi, sache que les statisticiens de l'INSEE écument toute la France et ils relèvent chaque mois plus de 12 000 prix, sache-le, plus de 12 000 prix. Et en particulier pour chaque bien, en fait, ils vont essayer d'avoir des prix qui correspondent à des types de magasins différents. Des magasins plutôt low cost et des magasins plutôt d'une gamme plus élevée pour justement ensuite réaliser la moyenne de ces prix. Mmh. Alors, une fois de plus, pas dire grand chose cette moyenne-là parce que, après tout, peut-être que les Français vont très massivement dans le low cost et moins dans le haut de gamme ou l'inverse. Donc là aussi, quand on calcule l'inflation, il y a des conventions, il faut se mettre d'accord sur des règles, et donc on va trouver un prix moyen pour chaque bien et chaque service, mais qui reste une moyenne calculée par l'INSEE et qui ne correspond pas forcément à la réalité qui est vécue par chaque Français.
D'accord. Alors en conclusion de cette émission, je crois qu'on peut dire que le calcul du taux d'inflation aboutit à un chiffre qui est hautement flexible et malléable.
Très conventionnel en tout cas. C'est un chiffre qui signifie ce qu'il est parce qu'on a posé des règles et des conventions. On aurait pu en poser d'autres.
D'accord. Très bien. Donc,
mais on n'a pas terminé parce que la semaine prochaine, nous allons voir une question essentielle qui est celle de la qualité et du contenu des produits. Parce qu'après tout, on peut très bien acheter un produit au même prix à 3 mois d'affilée, alors qu'en fait, c'est plus exactement le même produit.
Et oui,
dans ces conditions,
je vois tout à fait de quoi tu parles, Renaud, puisque j'ai lu il y a très récemment un article sur cette question. Eh bien, écoute, donc le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Et je te dis à bientôt.
Et ben, de même, je te dis à bientôt, Eric. Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Éric Carlier et Renaud Chartois.